Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
En République démocratique du Congo, une centaine d'établissements d'enseignement supérieur et universitaires ont été fermés par le ministère des tutelles. Et c'est pas encore fini, hein. L'opération s'est poursuivie et vise les établissements qui ne remplissent pas les normes de viabilité, qui ne répondent pas aux normes de viabilité. Alors la plupart d'établissements fermés sont des extensions des universités et instituts supérieurs à travers le pays. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les conditions à remplir, hein, les conditions des viabilités qu'il faut remplir avant d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. On en parle avec le professeur Adélard Kwanzaka, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Des questions, préoccupations, témoignages, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour vous enregistrer. Nous allons vous rappeler pour participer à cette émission. Professeur Adélard Kwanzaka, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a appris que plusieurs établissements ont été fermés parce que ces établissements ne répondent pas aux conditions des viabilités. Alors, quels sont, d'abord, combien d'établissements ont été fermés à ces jours?
Oui, en fait, jusqu'aujourd'hui, il y a 267 établissements qui ont été fermés. Et parmi ces établissements, vous avez des extensions, comme vous avez dit, des éducats des localités et des établissements qui sont interdits de fonctionnement pour n'avoir pas rempli des conditions, pour n'avoir pas présenté des garanties pour lesquelles certains établissements ont été créés.
Voilà, vous
donc, 267 au total qui ont été fermés à ce jour, et comme vous avez dit, la série va continuer.
Voilà, 267 établissements fermés à travers le pays. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé le ministère des tutelles à fermer ces établissements?
Vous savez, dans la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, il est dit à l'article 2, alinéa 2, que la présente loi a pour finalité de créer les conditions nécessaires à la formation des élites pour un développement harmonieux et durable. Donc, formation des élites pour un développement harmonieux et durable. On ne peut pas former des élites qui soient capables de contribuer valablement au développement dans des extensions, dans des établissements qui ne remplissent pas les conditions, dans des établissements qui ne garantissent pas une formation de qualité, dans des établissements qui n'ont pas des enseignants, dans des établissements pratiquement qui peuvent être considérés comme des PME ou PMI académiques, en fait des kiosques. Donc, des établissements qui ne remplissent pas les conditions ne sont pas capables de former des élites qui puissent contribuer à un développement harmonieux et durable. Donc, il y a des garanties, n'est-ce pas, auxquelles les établissements qui sollicitent un fonctionnement doivent remplir. Donc là-dedans, vous avez des garanties juridiques, des garanties matérielles, des infrastructures, des bâtiments qui conviennent, des laboratoires, des garanties financières. Ceux qui créent des écoles, notamment des écoles privées, doivent garantir que dans au moins 10 mois, ils sont capables de prendre en charge le personnel qui va travailler dans ces établissements-là. Il y a des garanties d'encadrement moral et surtout des garanties académiques et administratives. Vous savez, dans ces auditoires localisés, dans ces extensions, Les gens qui travaillent ne remplissent pas les conditions. Ce sont des gens qui ont réussi peut-être avec un diplôme, avec un pourcentage approximatif. En fait, les gens qui n'ont pas rempli les conditions pour être recrutés régulièrement selon les critères exigés par l'enseignement supérieur universitaire. Donc, ce sont ces garanties-là que ces gens, que ces établissements n'ont pas présenté ou n'ont plus présenté. C'est ce qui a fait que ces établissements extension, ces établissements auditoires délocalisés soient fermés.
Voilà, ces établissements ne répondent pas aux normes, ne présentent pas des garanties juridiques au niveau des infrastructures. Alors, quand vous parlez, par exemple, des infrastructures, qu'est-ce qu'il faut avoir comme, infrastructure ou bâtiment avant d'ouvrir, avant de lancer un établissement d'enseignement supérieur universitaire?
Bon, les bâtiments sont, il faut des locaux d'abord pour les auditoires des étudiants. Il faut que ce locaux soit équipé, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des bureaux pour l'administration. Il faut qu'il y ait des laboratoires. Selon les filières organisées, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Vous avez, vous vous retrouvez dans des établissements où un local de je ne sais de combien de mètres carrés qui sert en même temps de le bureau du DG, le bureau de l'académie, le bureau de service d'apparitorat, etc. Donc, on ne peut pas confiner une université, un institut supérieur dans un petit local qui ne garantit pas une formation adéquate. Donc, il faut des locaux appropriés, il faut des bibliothèques, il faut des laboratoires, etc. Et dans la plupart des établissements, cette garantie n'existe pas.
Voilà, nous savons même ici à Kinshasa, il y a certains établissements qui n'ont pas leurs infrastructures propres, qui sont des locataires, mais qui fonctionnent quand même, professeur.
Oui, locataire, oui, juste quand on est locataire, il faut qu'on trouve des garanties. Financière, vous êtes locataire, on doit regarder aussi le local que vous louez là-bas. Donc, vous êtes locataire, mais le local que vous louez doit remplir un certain nombre de conditions. Et puis, est-ce que vous êtes locataire, vous êtes capable de supporter la location pendant combien de temps? Donc, il faut que toutes ces garanties soient présentées pour être autorisées à fonctionner. Et, si vous fonctionnez déjà et qu'à un certain moment, ces garanties ne sont plus remplies, la tutelle a le droit de vous retirer l'agrément ou de vous retirer l'autorisation de fonctionnement. Ou encore, vous avez été agréé au regard de certains objectifs institutionnels. Par exemple, vous êtes agréé ou vous avez présenté dans votre demande d'agrément ou dans votre demande d'autorisation de fonctionnement que vous voulez organiser la filière agro-vétérinaire. Mmh. Et si, lors de contrôle, parce qu'il y a toujours des contrôles périodiques, on se rend compte que vous avez changé d'objectif sans être autorisé, et au lieu de continuer avec l'agro-vétérinaire, vous organisez maintenant les droits. Le pouvoir organisateur a le droit de vous retirer, n'est-ce pas, cette autorisation de fonctionnement et de fermer votre établissement. Il en est de même pour en ce qui concerne les ressources humaines. On doit voir si vous avez des ressources humaines propres. Combien de personnes, combien d'enseignants vous avez, ces enseignants sont qualifiés pour vous prêter dans la filière qui fonctionne dans votre établissement. Et si on s'est rencontré à un certain moment que vous avez présenté une liste de professeurs, d'enseignants qui ne répondent pas aux qualités selon la filière que vous organisez, on vous retire l'autorisation de fonctionnement et on vous interdit de fonctionner.
Voilà. Donc, il faut répondre aux normes de viabilité pour fonctionner au bon nombre de ces établissements. Vous avez parlé déjà des 267 établissements fermés à travers le pays. L'opération n'est pas encore terminée. Elle va se poursuivre. Nous avons en ligne deux auditeurs. Pierre Pascal nous appelle des Kamina. Gentil Oumanou est à Kananga. Vous voulez également participer? Appelez au 081-890-6394.
Radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le top time de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quelles sont les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire? Pierre Pascal, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour, Julien. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Pierre Pascal, quelle est votre préoccupation?
Oui, Julien, ma préoccupation se pose sur la fermeture des universités. Aujourd'hui, nous commençons à nous poser des questions alors que les universités sont déjà en plein fonctionnement et les étudiants en pâtissent. Vous voyez bien. Les questions que l'invité présente aujourd'hui, les questions que le ministre de l'Enseignement a posées aujourd'hui pour fermer les universités, ce sont les questions pouvait bien se poser avant de leur donner le numéro de fonctionnement. Vous voyez, on octroie le numéro de fonctionnement aux universités, alors que ces universités n'ont même pas de locaux. Vous voyez, on octroie le numéro de fonctionnement aux universités, les universités qui manquent de budget. Alors, si on regarde au départ de l'idéologie, de la nature de l'université, c'est de former un chercheur, quelqu'un qui est
Pierre Pascal, quelle est votre question? Passez directement à la question, les autres attendent.
Oui, je voulais savoir, quel est le critère qu'ils prennent en compte pour fermer les universités? Est-ce parce que les promoteurs des universités quittent la coloration politique? Parce que ça aussi, ça fait partie de la cause de l'ouverture, parce que vous êtes de telle famille politique, on vous octroie, vous commencez à fonctionner avec votre université. Dès que vous commencez à chercher des positions, on vient, on ferme l'université, comme il en est des cas avec les chaînes de radio et de télévision. Dès que vous êtes de telle famille, vous voulez changer de position, on vient, on vous dit non, non, on ferme l'université. Je voudrais savoir quels sont les critères qu'ils prennent en compte pour fermer les universités, parce que le même critère-là devait être prise en compte avant l'ouverture des universités. Oui.
Merci. Gentil Oumanou de Kananga, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du show.
Oui.
Ok, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Je sais que ces derniers temps, les temps qui viennent de couler, 2015, le ministre avait signé une ordonnance qui interdit les extensions et les universités qui n'étaient pas autonomes ou bien qui n'étaient pas en mesure de fonctionner, de s'arrêter. Alors, ce dernier temps, chez nous ici à Ghana, on avait aussi fermé d'autres universités. Mais on a vu que parmi les universités qu'on avait fermées là et les extensions, on a commencé, le ministre a autorisé d'autres universités à commencer à fonctionner. Alors, je voulais demander à notre invité et à notre invité, pourquoi auparavant là le ministre n'avait pas pris le temps de contrôler ces universités et par quel mécanisme il s'est retrouvé que non d'autres universités sont en mesure de fonctionner, je dois les réhabiliter. C'est au moins ça ma première question. La deuxième question, je voulais demander à notre invité, quels sont les gens, quels sont parmi les corps d'enseignement, quels sont les gens qui sont en mesure de diriger un institut supérieur, soit une université? Un assistant peut diriger, peut rester un chef, un assistant peut rester un DG ou bien un académique. Quels sont les agents habilités à diriger les instituts supérieurs et les extensions? Merci, c'est gentil.
Merci. Arsène nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Arsène.
Bonjour, messieurs.
Quelle est votre question?
En fait, j'aimerais juste demander à notre invité quelle est la garantie sur l'infrastructure qu'il propose aux établissements fermés par rapport aux établissements publics. Deuxième, quelle est la volonté?
Un instant, vous parlez de quelle garantie?
La garantie des infrastructures que les gouvernements mettent aux établissements fermés par rapport aux établissements publics.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Par là, j'aimerais juste de dire les bien fondés. En fait, les établissements publics, mais il n'y a pas, en fait, moi je suis étudiant en fait, à l'université de Lubumbashi.
Oui.
D'abord, les conditions de vie ou les conditions d'évolution, ça ne promet pas, mais nous sommes en train de subir. Au lieu de chercher comment encourager l'épanouissement de l'enseignement, on est en train de casser certaines idées par rapport à l'évolution, à l'épanouissement de l'enseignement à travers les pays. C'est cette garantie que j'aimerais savoir par rapport aux établissements fermés vis-à-vis aux établissements publics. Deuxième question, je ne sais pas si je suis clair.
Bon, on essaie de comprendre. Donc, vous êtes à l'université de Lubumbashi. L'université de Lubumbashi a des bâtiments, tout ça, on le savons très bien. Alors, vous voulez savoir pourquoi on ferme les autres établissements qui n'ont pas des bâtiments, c'est ça?
Les biens fondés, oui, de cette fermeture, parce que nous, les établissements publics, d'abord, ne répondent pas aux normes, mais vous fermez certains établissements, soi-disant, ils ne répondent pas aux normes. Comment expliquer ces paradoxes?
Ah, d'accord. Là, c'est un peu, c'est clair. Merci. Professeur Adela.
Oui, merci beaucoup. Je commence par l'intervenant de Lubumbashi, qui demande de garantir, en ce qui concerne les infrastructures des établissements publics. Je crois que, d'abord, je dois préciser que, en ce qui concerne la fermeture ou l'interdiction de fonctionnement, il s'agit des établissements publics ou privés fermés. Donc, s'il y a, si un établissement public ne répond pas aux normes, d'abord, on ne va pas l'ouvrir, parce que l'État ne va pas ouvrir un établissement de lequel il n'est pas capable de prendre en charge, pour lequel il n'a pas de bâtiment, n'est-ce pas, pour lequel il n'a pas un personnel qui va y rester, pour lequel il n'a pas de garantie qu'il pourra payer le personnel. Donc, l'État ne peut pas ouvrir des établissements pareils. Donc, les garanties pour des infrastructures, mais pour les écoles privées, les établissements privés, il y en a qui ont travaillé, qui fonctionnent et qui fonctionnaient pratiquement dans des infrastructures. Je ne sais pas parler d'infrastructures, dans des stocks de kiosques. On a trouvé à côté des marchés, au niveau des ronds-points, dans des châteaux d'eau, etc. Donc, ce travail n'est pas. Le ministre ne s'est pas réveillé le matin et de son bureau, il prend un arrêté de fermeture. Non, c'est un travail signé. On a envoyé des équipes qui sont allées dans des provinces, dans des localités, pour étudier, n'est-ce pas, voir dans quelles conditions ces établissements qui se disent, fonctionner. Et on s'est rendu compte que ces établissements n'avaient d'université ou d'institut de nom. Alors, on a pris la décision de les fermer. Et en ce qui concerne les établissements publics, l'État les crée en tenant compte de la carte, n'est-ce pas, académique. L'État ne crée pas d'établissements public, par exemple, dans une cité comme Cissante, s'il y a un ICEM, l'État ne va pas dire qu'il y a un ICEM ici qui organise, et à 2 mètres ou à 1 kilomètre, il fait encore un ICEM. Ce qui est souvent le cas pour les privés, hein, qui font fonctionner leurs établissements sans autorisation, pouvaient compter dans une cité 5-6 ICEM. Vous avez 2-3 universités technologiques et qui ne répondent pas toutes ces universités-là aux normes exigées pour le fonctionnement. Mmh. Donc, pas de facultés, pas de bibliothèque,
pas d'enseignants qualifiés,
pas de laboratoires, etc.
Donc, d'accord.
Pas,
Mais on ne peut pas comparer, par exemple, l'université de Gombassi à certains établissements qui fonctionnent à Gombassi, certains établissements privés que je connais, dont certains ont été fermés.
Voilà, on va, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir deux autres auditeurs, Joseph Chitoko de Kinshasa et Honoré de Kolwezi.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Quelles sont les conditions d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur? Professeur Adela Kwanzaka, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, est notre invité. Il nous a dit tout à l'heure que 267 établissements ont été déjà fermés à travers le pays et l'opération continue. Joseph Tuto, que vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, j'ai deux ou trois questions que je vais poser à l'invité. La première, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que les conditions d'ouverture des établissements supérieurs existent. La deuxième question, est-ce que il y a un seul établissement au Congo qui réponde à tous ces critères et toutes ces conditions-là? La troisième, la dernière donc, est-ce que quelles sont les chances de réussite de cette démarche de fermeture des universités et des établissements non viables? Parce que c'est pas la première fois. Et justement, quelles sont les chances quand on sait que nous sommes dans un des pays les plus corrompus de la planète? Merci.
Bien. Honoré de Kolwezi, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi, bonjour à vous.
Honoré, quelle est votre question?
Ma première question a été juste de savoir comment est-ce que les autorités parviennent à avoir les informations, par exemple ici à Kolwezi. À mon savoir, il n'y a aucune université, aucune institution qui répond aux normes d'abord. On ne devrait pas avoir même une université à Kolwezi parce que moi d'abord, je suis étudiant. Mais comment est-ce qu'on parvient à fermer d'autres et laisser d'autres là? Ça me dépasse, c'est à l'invité de me répondre.
Vous dites qu'il y a Honoré, vous dites qu'à Kolwezi, il y a des établissements qui ne méritent même pas d'être là et qui devaient rapidement être fermés.
Qui fonctionnent, mais qui sont en fonctionnement jusqu'au...
D'accord.
Aujourd'hui même.
Oui.
Et la deuxième question, comment on arrive à garder les enseignants dans une université? Parce que maintenant, c'est un champ, n'importe qui donne cours à l'université, et je dépends de l'université. Comment est-ce qu'on parvient à garder d'autres enseignants dans des universités? C'est juste mes deux questions.
D'accord, merci Honoré de Kolwezi. Revenons à la question de Pierre Pascal de Kamina, professeur Adela. Il vous pose la question de savoir pourquoi avoir accordé des autorisations de fonctionnement aux établissements qui ne répondaient pas aux normes.
Bon, je dis que la création des établissements était précédée par une enquête de viabilité. Les gens introduisent leurs demandes et le ministère de pêche se place une enquête, des enquêteurs pour aller vérifier la situation. Et c'est au vu des résultats qu'on autorise à un établissement de fonctionner. Mais, chez nous présents, il arrive que, par exemple, je prends le cas de locataires, il peut arriver que cet établissement qui était situé à tel endroit, qui était locataire, a été délogé par manque de frais de fonctionnement, disons par manque de frais de paiement de loyer. En ce moment-là, cet établissement n'a plus d'infrastructure, donc il n'est plus localisé, on ne peut plus le voir. Il devient comme un établissement fictif, donc on ferme. Je vous ai dit que la tutelle peut retirer l'autorisation de fonctionnement ou l'agrément à partir du moment où les critères ou les conditions ayant prévalu à sa création ne sont plus opérationnels ou n'existent plus. C'est le cas de la plupart des établissements. Il y a des gens qui ont présenté des locaux et puis une petite garantie locale, financière, etc. Mais comme les gens créent des établissements comme des boutiques, n'est-ce pas, comme des PME académiques, alors ils sont appris à un certain moment, ils n'ont plus la possibilité de fonctionner, de répondre aux exigences, eh bien, la tutelle de retire, le ministère retire, n'est-ce pas, l'autorisation de fonctionnement. Donc, c'est pour dire que il y a parmi les établissements qui ont été fermés, il y en a qui ont présenté les garanties valables au départ et puis qui se sont supplés chez le président et l'État ne pouvait que retirer leur autorisation de fonctionnement. On m'a posé une question sur le personnel. Est-ce qu'un assistant peut devenir DG, peut devenir recteur?
Oui.
Non. En principe, non. Parce que c'est pas la garantie, disons, sur le, du point de vue du personnel. Un assistant n'est pas qualifié. C'est un apprenant, en fait. Hein. Lui-même doit cheminer pour devenir docteur et puis encore là prétendre à être... n'est pas capable de diriger un établissement. C'est, un assistant ne peut pas être DG. Un assistant ne peut pas être recteur.
Oui, oui. Adela Kwanzaka, oui, le grand problème dans ces établissements, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de professeurs, ils pensent qu'à aux professeurs visiteurs qui viennent de temps en temps, parfois ils ne viennent pas et ce sont les assistants qui s'occupent, qui enseignent dans ces établissements.
Oui, justement. C'est pour cela que dans le décret numéro 15/41 du 14 décembre 2015 du Premier ministre, toutes les conditions, toutes les garanties sont spécifiées. Donc, toute personne, désormais, qui veut créer un établissement, doit se référer à ce décret-là. Et s'il est en dehors de ce décret, il ne sera pas autorisé à créer un établissement. Parce que la garantie personnelle ou personnel qualifié est très, très importante. Parce que c'est le personnel qualifié qui est à la base d'une formation de qualité aussi. Si les gens ne sont pas qualifiés, sont des assistants à la ligne, parfois même là où ils vont faire des chantiers, à l'échelle des travaux, on ne peut pas être capable d'offrir une formation de qualité. Rien déjà qu'à partir de cette matière. Vous pouvez avoir de très beaux bâtiments, n'est-ce pas? Et un beau équipement, mais si vous n'avez pas des enseignants qualifiés, vous n'allez pas offrir une formation de qualité. Donc, on y tient beaucoup.
Voilà.
Il y a M. Luman, je crois, de Kananga, qui a posé la question, une deuxième question, sur la fermeture, pourquoi certains établissements ont été fermés après...
Ils ont repris. Oui.
Je n'ai pas connaissance des établissements qui ont été fermés hier et on les a ouverts aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des lettres de recours pour dire que les établissements répondaient aux conditions et généralement la tutelle envoie toujours des équipes de contre-vérification pour voir si les informations qu'on a reçues sont vraies ou elles sont fausses. La plupart d'enquêtes de vérification qu'on mène aboutissent à l'affirmation que les premières informations dont on dispose, les premières informations qui ont amené à la fermeture des établissements.
Bien, il y a Joseph Chitoko vous a posé la question de savoir est-ce que dans ce pays, dans notre pays, y a-t-il encore des établissements qui répondent aux normes des viabilités?
Bon, j'ai parlé des garanties. Il y a plusieurs garanties que l'établissement doit présenter pour être autorisé à fonctionner. Alors, vous avez oui, il y a les anciennes universités, notamment les universités traditionnelles et même certaines universités privées, notamment des universités professionnelles qui sont dans les grands centres, remplissent quand même la majeure partie de ces garanties. Ce sont des universités qui ont un personnel, qui sont dans des locaux et qui leur sont propres et qui font leurs propres locaux. qui ont des bibliothèques et qui ont des laboratoires. Mais il y a des établissements, effectivement, qui remplissent la majeure partie de ces garanties-là. Ouais.
Voilà, deux autres auditeurs en ligne, Marcel de Kananga et Deo Grasse de Kalemi. Marcel, bonjour, vous êtes à Kananga, quelle est votre question?
Bonjour Didier, bonjour à monsieur le professeur Adelard. Ma préoccupation était en train d'abonder dans le même sens qu'avec mes prédécesseurs. Il est bien bon de poursuivre avec l'opération, monsieur Diodi. Mais quand on poursuit l'opération, on doit demeurer strict dans la décision. Mais voilà un peu mon inquiétude. Comme mon ami de Canan venait de le dire, le ministre a bien pris la décision de pouvoir supprimer quelques institutions sous prétexte qu'il ne répondait pas, laisse dire, aux critères, n'est-ce pas, de viabilité. Mais par la suite, le même ministre est en train d'autoriser le fonctionnement par, malheureusement, par l'arrêté qu'il avait signé est en train d'être annulé par une lettre d'accusé de réception. Je ne sais pas comment pouvez-vous concilier une lettre d'accusé de réception avec l'arrêté qui, dans la dite lettre de réception, où il autorise encore le fonctionnement de mêmes institutions qui ont été fermées. Aussi longtemps que les mêmes institutions avaient déjà connu une déperdition d'étudiants, quel est l'avenir de ces étudiants et quel est l'avenir de cette institution qui a déjà perdu la validité auprès de ces étudiants? C'était ça mon inquiétude. Et puis, pourquoi monsieur le ministre n'avait pas pu envoyer une commission avant que ne puisse prendre la décision et après se contredire? Voilà un peu mon inquiétude, mon monsieur Dodi.
Merci Marcel. Deo Grasse de Kalemi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité.
Oui, quelle est votre question?
Ok, je voudrais savoir seulement, une université peut présenter la bibliothèque, un laboratoire, même un rectorat. Bon, comment est-ce que les étudiants peuvent savoir que cette université est sûrement en norme ou en norme demandée par les ministres là? Comment est-ce que les étudiants peuvent savoir cela?
D'accord, merci. Professeur Adelard.
Oui, je crois que les étudiants qui sollicitent l'inscription, c'est les garanties ici ne sont pas adressées aux étudiants. Les garanties sont adressées particulièrement à ceux qui sollicitent de créer une université ou un institut supérieur. Et c'est eux qui doivent présenter ces garanties et l'État vient voir si ces garanties sont là exactement. Et les étudiants, bon, vous êtes par exemple à Kalemi, vous pouvez vous-même voir aussi quelle université a des bâtiments. Avant d'aller, quand vous allez faire l'inscription, vous voyez aussi ce que les bâtiments sont. Mais sinon, les garanties sont adressées, sont demandées aux promoteurs des établissements, ceux qui veulent créer des établissements. Alors, pour notre auditeur de Kananga, qui parle d'une lettre d'accusé de réception, qui aurait annulé un arrêté. Je ne sais pas de quelle lettre d'accusé de réception. Quand on écrit, par exemple, pour dire qu'on réclame, etc., on peut répondre. Ça, c'est la moindre des courtoisies. Un ministre ne peut pas, en tout cas pas le ministre de l'enseignement universitaire, attendre pour laisser les gens dans l'expectative. Vous avez écrit, on vous répond pour dire voilà, on a accusé réception de votre lettre. S'il s'agit d'une revendication, on dit bon, on va l'examiner. Et cela ne tient pas lieu d'autorisation de fonctionnement. Loin de là. Donc, il faut répondre. C'est la moindre des questions.
Voilà, on va terminer.
Oui, allô?
Oui, professeur, on va terminer avec une question d'un auditeur qui a dit il a l'impression que cette fermeture prend des colorations politiques parce que bon nombre de ces extensions ont été ouvertes soit par un notable, soit par un député du coin ou un politicien de renom dans le coin. Alors quand il quitte la majorité, il bascule dans l'opposition, alors on ferme rapidement son établissement.
Non, moi je vais pas aller sur ce terrain-là. Nous sommes sur un terrain purement technique et je vous ai dit quelles sont les conditions de création des établissements, quelles sont les garanties à présenter pour créer un établissement. Mais à partir du moment où ces garanties ne sont plus disons, n'existe plus, on retire, on ferme l'établissement.
Voilà.
Mais la plupart, il n'y a pas que... il faut vraiment faire très attention pour ne pas céder à tomber dans la désinformation. Les extensions qui ont été fermées, même les auditoires délocalisés, pour la plupart, sinon une bonne partie d'entre ces extensions, sont des extensions publiques, n'est-ce pas? Et il y a des extensions d'extensions publiques qui ont été fermées. Des auditoires délocalisés des extensions publiques qui ont été fermées. Et les extensions publiques n'appartiennent ni à la majorité, ni à l'opposition. Ce sont des établissements de l'État congolais.
D'accord. Et professeur Adela...
Certains chefs d'établissement qui ont, certains chefs d'établissement ont ouvert ces extensions sans aucune autorisation, raison pour laquelle on les a simplement fermés.
D'accord. Pour terminer, nous retenons que pour ouvrir un établissement d'enseignement supérieur universitaire, il faut répondre aux garanties juridiques, il faut avoir des infrastructures, il faut présenter des garanties financières, être à mesure de payer son personnel à 10 mois des salaires, garantie des 10 mois des salaires, bibliothèque, avoir un personnel qualifié. Voilà. Si vous arrivez à vous réunissez toutes ces conditions, alors à ce moment-là, on va vous donner l'autorisation de fonctionner. Merci professeur Adela Kwanzaka, je répète que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Bonne journée.
Bonne journée à vous, merci.